vais vous raconter l'histoire de la thérapie, ou plutôt l'histoire d'un homme. C'est un homme qui croit qu'il n'en a pas besoin de thérapie. Non qu'il n'ait pas d'angoisse, de blocage, de coups de mou. Il lui arrive même d'être carrément dans le dur, de ne plus y arriver. Il ne se sent pas invulnérable, loin de là. Mais il a ses amis qui lui rendent la vie si douce. Il a sa salle de sport aussi. Et la piscine dans laquelle il fait ses longueurs avec une patience d'artisan. Il aime beaucoup cette phrase d'un ancien président. Il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par régler. Il n'y a pas de problème qu'une heure de brasse coulée ne finisse par régler, rectifie-t-il en souriant. Entre ses amis si solides et la joie liquide de l'eau de la piscine, il n'a pas vraiment de place pour un psy. Il n'en a pas besoin. Jusqu'au jour où... Qu'est-ce qui soudain du passé fait retour pour lui casser les jambes et le clouer au lit, lui ôter tout désir en même temps que tout espoir de s'en sortir seul? Parler à ses amis, il n'y arrive plus. C'est comme une honte bue, une honte tue, un bloc de fonte dans sa bouche et dans son âme. Quant à aller à la piscine, la seule idée du bain l'angoisse au plus haut point, il coule déjà suffisamment comme ça. C'est alors qu'il la rencontre. Parce qu'il n'a pas le choix et sans même savoir comment il se retrouve là, dans son petit cabinet au rez-de-chaussée, qui donne sur un joli jardinet. Lors de leur première séance, il parle beaucoup, et aussi il se tait beaucoup, et ça lui fait du bien d'avoir le droit au silence. Elle lui dit un truc simple, mais un truc qui le concerne. Oui, c'est ça le mot, un truc qui le concerne, lui, et personne d'autre. Est-ce le lieu ? Est-ce le lien ? Qu'est-ce qui se passe ici et nulle part ailleurs qui lui fait tant de bien? Pourquoi réussit-il à lui dire ce qu'il n'a pas su dire à son meilleur ami? Et elle, comment l'écoute-t-elle? Est-ce qu'elle est concentrée? Est-ce qu'elle pense aux courses de son dîner? Est-ce qu'elle arrive à être concentrée tout en pensant à son dîner du soir? Elle, c'est étrange, il ne sait rien d'elle, mais ça ne le dérange pas. Mais de quelle nature est leur lien? De quoi donc est fait ce lien qui le libère? Il n'est ni intime, puisqu'elle ne parle pas d'elle, ni professionnel, puisqu'il raconte toute sa vie. Mais de quoi est-il fait? Est-il fait de mots, de confiance, de silence? Est-il fait de temps, d'espace, de présence? Pour en parler ce matin, de ce lien et de ce lieu, du mystère même de la relation thérapeutique, j'ai la joie de recevoir Émilie Debeuil, psychologue et psychothérapeute, auteure de Voir un psy, un excellent podcast sur la plateforme Magellan. Émilie Debeuil nous a rejoint sous le soleil de Platon pour nous aider à cheminer sur les bords de cette question. Qu'est-ce qu'une bonne thérapie?
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Émilie Debeuil, bonjour.
Bonjour Charles.
Merci d'être avec nous. Alors je vous ai invité parce que je suis votre travail depuis un certain temps, notamment ce podcast sur Magellan, vos interventions, vos conférences, et vous êtes à votre manière un peu militante contre la guerre des chapelles. Il y en a marre comme ça, qui est d'un côté les psychanalystes qui méprisent les thérapeutes, bref, de l'autre le même mépris. Et donc cette question que j'ai posée à la fin de mon édito, je vous la pose un peu frontalement, comme ça au début, qu'est-ce qu'une bonne thérapie?
Alors une bonne thérapie, en fait, la question, disons la première question, c'est quelle thérapie en fait, plutôt que quelle bonne thérapie. Quelle thérapie parmi toutes les thérapies?
Je crois qu'il y en a plus de 200 familles.
Oui, c'est ça, il y a à peu près 300 courants de famille. 300 courants, et donc, en fait, pour trouver la bonne thérapie, enfin le bon thérapeute, il faut d'abord savoir en fait, vers quelle famille on veut aller.
Alors
et
justement, je vous interromps, je suis désolé, mais c'est mon défaut, ben c'est comme ça, mais j'aimerais qu'on ait un petit panorama pour commencer, pour qu'on s'y retrouve, que tout le monde n'est pas au courant, que les auditeurs se retrouvent un petit peu. Est-ce que vous pouvez dresser un bref panorama des plus grandes familles de thérapie?
Ben, la famille historique, c'est la psychanalyse. La psychanalyse, elle est là depuis le 19e siècle, donc avec Freud, elle est très très dominante en France, mais dans les pays anglo-saxons, en fait, il y a d'autres courants comme le comportementalisme qui arrivent à la même époque. Et donc ça, c'est un autre courant. Ensuite, il y a le courant systémique qui arrive plutôt dans les années 50-60.
Alors, est-ce que vous pouvez définir, on va dire, la méthode comportementaliste et la méthode systémique? Alors, par opposition avec la méthode psychanalytique?
La méthode, enfin, disons que chacune en fait porte surtout des visions du monde. Oui. La méthode comportementaliste, c'est surtout que, enfin, on dit comportementaliste, cognitiviste et émotionnel. En fait, il y a eu une phase comportementaliste. Ensuite, c'est ajouté une phase cognitiviste. Ça veut dire qu'en fait, on a commencé à travailler sur la boîte noire, sur les pensées, les émotions. Et ensuite, il y a eu une phase qui était plus émotionnelle. On a commencé à travailler avec les émotions. Voilà. Et donc, votre question, c'était quelle est la
méthode.
Il y a une vision. En fait, il y a des méthodes, mais il y a surtout une vision. C'est-à-dire qu'on pense qu'on peut apprendre des nouveaux comportements.
C'est intéressant ce que vous dites. Alors, je vais essayer de résumer les approches et vous allez dire la vision du monde qui est derrière. Dans la psychanalyse, c'est une cure par la parole. Une parole censée permettre à l'inconscient d'émerger à la conscience. Et c'est plutôt une psychanalyse longue sur plusieurs années. Ce que vous avez appelé comportementaliste, est-ce que je me trompe si je dis qu'il s'agit de presque redresser, entre guillemets, ou rééduquer un comportement?
Ah non, pas redresser.
Non, comment il faudrait dire alors?
Il faut dire qu'on apprend des nouveaux comportements. En fait, on apprend plus de flexibilité, on apprend à ne plus être l'esclave d'un réflexe qu'on avait ou d'une attitude qu'on avait de manière perpétuelle. Et donc on apprend une flexibilité à être plus souple et à avoir plus de comportements.
Ça veut dire que par exemple, si on
a... Plus d'attitude, plus de pensée, plus de façon de voir le problème.
D'accord. Ça veut dire que si on fait une thérapie comportementaliste, c'est le C, le premier C de TCC, mm-hmm. Le deuxième ce sera cognitiviste. Ça veut dire qu'on va essentiellement essayer de faire des exercices pour mieux agir, mieux se comporter en y allant progressivement, en s'intéressant au comment, mais sans vraiment questionner le pourquoi le plus profond, c'est ça?
Oui, c'est vrai que l'idée des comportementalistes, c'est qu'on est là surtout pour apaiser la douleur. En fait, quand j'ai un patient et que je lui dis est-ce que vous préférez qu'on travaille sur pourquoi ou sur, en fait, ou si est-ce que vous voulez apaiser la douleur, souvent les gens disent je préfère quand même apaiser la douleur. Donc en fait, on travaille d'abord sur comment. Mais c'est pas pour ça qu'on travaillera pas sur pourquoi après.
Mais donc vous écoutez le patient?
Oh, oui, j'écoute le patient. Pourquoi, comment j'écouterais pas le patient?
Ah, parce que un psychanalyste freudien ou lacanien pourrait se dire ce que me dit le patient n'est pas ce dont il a vraiment besoin. Il n'est pas conscient de ce dont il a vraiment besoin. Il me dit je veux moins souffrir et je veux, par exemple, si je suis alcoolique, moins boire. Mais il a tort parce qu'il devrait s'interroger sur le sens profond refoulé, par exemple, de son comportement. Donc peut-être que le psychanalyste plus freudien, il ne va pas écouter comme ça au premier degré le patient, alors que vous prenez sa parole pour argent comptant.
En fait, j'ouvre les portes que je peux ouvrir, en fait. Et s'il me dit qu'il veut commencer par là, alors on va commencer par là.
D'accord. Maintenant, il y a la thérapie.
Je ne pense pas que les psychanalystes disent qu'ils n'écoutent pas. Ils ont aussi une autre forme d'écoute avec beaucoup de silence, peut-être. Mais je pense que l'écoute fait partie de tous les psys.
Oui, bien sûr. Et juste, on finit le panorama et après, on essaye de questionner la nature de ce lien. Et puis, le mot que vous venez de lancer est probablement le plus important. Qu'est-ce que c'est qu'écouter et comment on fait pour écouter l'autre? Est-ce que c'est possible, en fait, même d'entendre l'autre? Mais je voudrais qu'on revienne au panorama, parce que c'est ça qui est compliqué, les gens sont perdus. Et d'ailleurs, c'est ça le but de votre podcast chez Magellan. Ça s'appelle Voir un psy, et puis il y a 6 épisodes, et il y en a un ou deux, je crois, où c'est vraiment se repérer dans la jungle, et puis vous êtes assez drôle, vous employez tous les sigles, il y en a 50, on comprend rien au début, puis après on s'y retrouve. Mais alors, attention, il y a TCC, et on a compris le comportementalisme, mais c'est quoi l'approche cognitiviste? Ça veut dire quoi, ce C-là?
Alors, les comportementalistes, ils se sont surtout intéressés au comportement, en fait. Watson, qui est donc un behavioriste américain, disait en fait il faut que ce soit observable et c'est très important pour les comportementalistes de voir la preuve. Mais en fait, il n'étudiait pas quand même la boîte noire. Donc il fait heureusement.
La boîte noire ?
La boîte noire, c'est-à-dire les pensées, les conflits intrapsychiques. Donc heureusement sont arrivés les cognitivistes qui se sont empilés en fait.
Ouais.
C'est ce qui est très particulier chez les TCC, c'est qu'en fait on empile les apprentissages alors que chez les analystes, en fait ils se sont tous plutôt séparés. En fait on retrouve l'analyse freudienne, jungienne, adlérienne qui sont tous chacun de leur côté. Mais chez les TCC en fait les savoirs se sont plutôt empilés. Donc mais on alors, dit comportementaliste parce que c'est plus vieux, puis cognitiviste parce qu'ensuite c'est arrivé...
Mais ça veut dire que si par exemple, je sais pas, je suis un peu parano, et donc du coup je vais voir un psy comportementaliste, il va plutôt, ou si je suis alcoolique, il va me dire d'éviter les lieux où il y a de l'alcool, d'éviter les fréquentations qui vont indiquer un certain comportement. Mais le cognitiviste, ou alors mettons que c'est le même psy mais qui s'ouvre au cognitiviste, il va m'aider à travailler mes schémas de pensée, c'est ça. Mes assimilations
mais
d'idées.
En fait, il n'y a plus de psy qui font uniquement du comportementaliste. En fait, ils font comportementaliste, cognitiviste et émotionnel.
Donc on commence à comprendre. Ah, il y a un nouveau mot qui est arrivé. Émotionnel, c'est-à-dire, moi je ne comprends pas que vous l'ajoutiez, pour moi c'est évident qu'on passe toujours par les émotions, et d'ailleurs dans votre podcast j'avais été surpris, vous semblez dire, Ben, on a découvert récemment les émotions. Quelle surprise. Belle découverte. Comme si finalement, les psychanalystes freudiens et lacaniens se contentaient d'être des bavards intellectuels, alors qu'évidemment c'est faux. Un patient sur le divan, il a plein d'émotions, et l'analyste, il en fait quelque chose. Et puis j'imagine aussi que le psychothérapeute comportementaliste ou cognitiviste, heureusement quand même qu'il est une chambre d'écho de l'émotion du patient. Alors qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites « alors on a ajouté la couche des émotions ».
Bah, c'est vrai que les études sont assez tardives sur les émotions et on a compris assez tardivement qu'en fait il fallait passer par l'affect pour voir vraiment rentrer dans le sujet. Mais quand vous dites que les psychanalystes sont pas du tout des intellectuels, quand on les entend à la radio, parfois on en trouve quand même un peu qui sont perdus dans les théories quand même, et ça n'aide pas du tout les patients. Il y a quand même quelque chose d'assez intellectuel.
Alors justement, c'est bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, la psychanalyse telle qu'on la voit dans les médias, elle a le défaut que vous pointez, mais pour moi c'est pas ça la vraie psychanalyse. Le psychanalyste sérieux, c'est celui qui est à l'écoute de votre souffrance, et il n'est pas simplement à l'écoute de ce que vous dites, c'est pas simplement des mots comme ça, c'est aussi un corps, le corps sur le divan est un corps souffrant. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'avait intéressé dans votre approche, c'est que, alors que vous êtes plutôt dans un camp, votre pratique est celle des TCC, mais vous avez fait une psychanalyse de type, on va dire, lacanien aussi. Et quand vous proposez l'approche intégrative, c'est une manière de dire, voilà, on peut faire un peu tout en même temps, et heureusement.
En fait, je trouve que chaque vision du monde est assez intéressante et que, en fait, ce qui est fondamental, c'est de savoir l'expliquer au patient, de savoir où il est, et sinon, il ne peut pas adhérer à la thérapie.
Vous voulez dire que le patient, ça c'est très intéressant pour tout le monde, devrait commencer par dire à son psy, en fait, vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Dans quel genre de famille ?
Oui, exactement. Un patient devrait commencer par dire, en fait, vous êtes où ? Comment vous avez été formé ? Est-ce que vous avez une certaine diplomatie avec d'autres courants, même si vous n'êtes pas expert ? Et puis, est-ce que vous êtes psychologue ou psychiatre ? Moi, je suis quand même effarée de voir que quand je rencontre des gens qui me parlent de leur thérapie, en fait, je leur dis, mais quelle est l'orientation ? Et en fait, personne ne sait répondre.
Mais en même temps, vous en demandez beaucoup aux patients. Vous lui demandez, lui il souffre, il est paumé, d'ailleurs c'est ce que j'ai raconté dans ma petite chronique d'entrée. Finalement on y va à un moment parce qu'on n'a pas le choix, on est jeté chez le psy, on sait même plus qui nous l'a recommandé, on arrive avec sa souffrance et son ventre noué et son insomnie depuis, on n'est pas capable. Oui en fait, racontez-moi un peu quelle est votre formation, qu'est-ce qui vous supervise, vous en demandez beaucoup quand même aux patients.
Non mais là c'est le psy qui est censé pouvoir expliquer avec des mots très simples. Voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas que le psy se perde dans des langages très jargonneux et des mots abscons. Mais non, je ne pense pas que c'est trop demandé à la personne qui souffre de poser des questions.
Et c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est que, pour moi, on commence à aller mieux, malgré tout, malgré la souffrance, le jour où on se sent responsable, en fait, de son devenir. C'est ça que moi, j'ai appris sur le divan. Donc moi, mon chemin a été de passer par le divan et pas et beaucoup plus que par des thérapies brèves. Mais finalement, vous dites qu'il y a la même exigence de responsabilisation du patient dans toutes les écoles, en fait.
Oui, moi, je trouve qu'il y a une responsabilité, surtout au début, parce qu'après, il faut faire confiance et lâcher prise, en fait. Donc, il y a une responsabilité qui est au début de choisir une bonne thérapie, enfin, choisir quelle thérapie, et ensuite de choisir un thérapeute.
Oui.
Et je trouve ça mieux de très responsable au début plutôt que de tomber dans un nomadisme thérapeutique où en fait la société paye des psys pour rien, le psy n'est pas très content parce qu'en fait il peut pas avoir une thérapie continue donc il y a pas de progrès, c'est pas très satisfaisant pour lui et il y a des gens qui souffrent et qui vont voir tout type de thérapeute et qui n'avancent pas en fait.
Et vous ça vous le voyez beaucoup de vos yeux ce nomadisme, cette errance de psy en psy, des gens qui ne trouvent jamais le bon au fond.
Bah ce que je vois surtout c'est que quelqu'un vient chez moi parce qu'il a été déçu d'un autre psy, mais il lui a pas dit.
Oui.
Et c'est quand même dommage, parce qu'en fait, il le dit à moi, mais en fait, je trouve qu'il aurait pu dire à son psy, en fait, vous travaillez trop sur le comment, moi, je veux savoir pourquoi, je veux savoir ce qui s'est passé dans mon enfance, et je veux travailler comme ça, ou je veux venir une heure et demie tous les mois, et pas une heure toutes les semaines, ou voilà, je trouve qu'il devrait dire pourquoi il est pas content, en fait.
Et finalement, vous...
En fait, je trouve qu'il devrait s'approprier la thérapie et être assez créatif.
Oui. Mais encore une fois, vous lui en demandez beaucoup.
Je lui demande de dire ce qu'il veut.
Mmh. Mais on peut, quand on va mal, c'est dur de dire ce qu'on veut.
Non, je pense pas. Je pense
qu'on a des idées. On veut aller mieux, quoi. On veut aller mieux, mais on sait pas trop comment.
On veut aller mieux, c'est vrai que c'est trop flou, en fait. Tout le monde veut aller mieux.
Oui, et surtout quand le problème qu'on a est d'être dans la fuite. Et quand, précisément, on se ment à soi-même. Mmh. C'est dur d'avoir cette honnêteté que... Mais c'est bien, c'est beau, mais c'est dur quand même.
d'avoir cette honnêteté de...
Je veux dire, ce que vous demandez, c'est assez dur. Quand on est perdu, quand par ailleurs, le problème qu'on a, c'est de se fuir et d'être dans la mauvaise foi, c'est dur d'être honnête. Je prends un exemple. Si quelqu'un est alcoolique, est-ce qu'il est alcoolique parce qu'il répète un schéma sur 3 générations, parce qu'il fuit le souvenir de son enfance et donc, est-ce qu'il veut aller chercher ça? Ou alors, est-ce qu'il veut juste aller mieux et puis réadapter son comportement pour s'en sortir? Vous dites, il devrait le savoir. Mais quelque part, quand vous dites ça, on entend quand même que vous êtes plus d'un côté que de l'autre, même si vous militez heureusement pour le rapprochement. Parce qu'il y a l'inconscient quand même, il y a le refoulé. Donc il y a la force de ce que je ne veux pas savoir. Et vous dites, le patient il devrait savoir et au moins savoir ce qu'il veut. C'est pas facile.
Alors l'alcoolisme c'est un peu particulier parce qu'il y a un effet sur le corps quand même. Donc il y a quelque chose de très... Le corps est embarqué et parfois c'est quand même difficile de parler d'inconscient alors qu'en fait c'est surtout physique.
Ouais. D'ailleurs, je crois que les alcooliques anonymes, c'est une méthode très comportementaliste pour le coup.
Alors, c'est une méthode qui, en fait, qui est que entre alcooliques.
Ouais.
Et c'est surtout une méthode de groupe.
Ouais.
Où la parole est libérée et où en fait, on pense qu'un alcoolique peut aller mieux s'il sauve un autre alcoolique. Et puis, il y a une idée de la nature supérieure va nous aider. Il y a 12 étapes. C'est plutôt un chemin spirituel, en fait.
Ah oui, c'est ça. Donc c'est pas tellement ce que je disais. C'est plutôt un être ensemble, plein de chaleur, qui nous aide à aller mieux. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait cette idée qu'on lâchait la question du sens et qu'on était surtout sur le comment, sur la pratique, sur un type d'existence permettant de moins rencontrer l'alcool.
Mais en tout cas, il n'y a pas de thérapeute. C'est des alcooliques qui s'aident entre eux.
Oui.
Et voilà, il y a 12 étapes sur un chemin spirituel. Les gens sont assez fiers en fait d'appartenir à ce groupe quand ils le disent.
Ouais.
Et voilà, donc c'est vrai que c'est plus comportementaliste parce qu'il y a beaucoup de paroles, mais bon, en vérité,
et puis aussi de pour action. Si tu sens que tu es tenté par ce verre, tu m'appelles. Si tu sens que tu veux aller au mauvais endroit, appelle-moi, je t'empêcherai d'y aller.
Oui, il y a une forme de parrainage.
Ouais.
Voilà.
C'est ce qu'il raconte très bien Kessel dans son livre, je crois. Joseph Kessel ?
Oui, c'est Joseph Kessel qui a beaucoup popularisé ça en France, avec un livre qui s'appelle « Avec les alcooliques anonymes », qui a été publié en 1960.
Alors, Émilie Debeuil, merci. J'ai noté des mots très importants, sur lesquels on reviendra après un peu de musique. L'écoute, la confiance, et surtout, quelque chose que vous n'avez pas encore explicité, mais que vous avez annoncé, c'est qu'il y a derrière chaque courant une vision du monde. On en parle après The Cure. C'était The Cure, l'excellent Close to Me.
France Inter, sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Émilie Debeuil, sous le soleil de Platon, psychologue, psychothérapeute, créatrice de l'excellent podcast Voir un psy chez Magellan. Et je voudrais qu'on revienne sur ce que vous avez dit qui est très, très intriguant. Il y aurait derrière chaque école comme ça de psychothérapie une vision du monde.
Oui, tout à fait. Alors, si on parle par exemple de la psychanalyse, l'idée derrière la psychanalyse, c'est quand même qu'on est très déterminé et qu'on est agi par des loyautés qui sont invisibles. La psychanalyse, par association libre, va vous aider à dévoiler ces loyautés et à trouver en fait une vraie liberté. Mmh. Voilà, ou d'accepter ces loyautés et du coup d'être quand même plus libre. Ça, c'est le monde, enfin les idées de la psychanalyse. Ce qui n'est pas totalement faux, mais dans TCC, en fait, on considère qu'on peut apprendre de nouveaux comportements, on peut développer une certaine flexibilité et qu'on n'est pas obligé de savoir pourquoi on les a acquis. Ouais. En fait, on sait qu'on les a, on n'est pas obligé de savoir pourquoi on a acquis ça dans notre petite enfance ou à l'adolescence. En fait, on peut déjà travailler sur ça. Et donc, c'est comme ça qu'on deviendra plus libre.
Donc, si je mets ma casquette de professeur de philosophie et que j'interprète ce que vous dites, il y aurait derrière la psychanalyse freudo-lacanienne une conception du monde déterministe. En gros, on a un destin qui est le produit des générations passées, qui nous épingle un inconscient dans le corps, en fait. Et le mieux qu'on puisse espérer, c'est de le savoir, de l'entendre et de retrouver un peu de fluidité dans l'acceptation de ce destin, finalement. Alors que les TCC, pour le dire vite, reposent sur une vision davantage de la liberté, de la capacité à se réinventer, indépendamment de la réflexion profonde sur d'où on vient et sur le sens des choses.
Voilà, exactement. Et en systémie, c'est plutôt le fait que, en fait, le système dans lequel je vis, l'environnement dans lequel je vis, m'agit. Donc, en fait, je suis un élément d'un système et en agissant sur moi, agira sur le système.
Ça, c'est
donc, les systémiques qui sont souvent très forts en thérapie familiale ou dans les thérapies de couple.
Bien sûr, puisque chaque famille est un petit système, quoi.
Exactement. Chez les Jungiens, en fait, c'est l'inconscient collectif. Donc, on considère qu'en fait, mon inconscient est aussi celui de l'inconscient collectif. Voilà, derrière chaque courant, en fait, il y a des idées préconçues.
Alors, tout ça est passionnant. Mais alors, pourquoi il y a la guerre? Parce que c'est ça le sujet. C'est pour ça que je vous ai invité, puisque cette guerre, vous voulez qu'elle cesse. Pourquoi il y a la guerre? Finalement, on pourrait s'entendre.
Alors, on pourrait s'entendre, mais en fait, en France, enfin, d'abord, c'est historique, en fait. En France, le courant dominant, c'était la psychanalyse. Et aux États-Unis, c'était donc les TCC et ensuite la systémie. Et en fait, en 2004, en France, l'INSERM a sorti une étude pour évaluer quelles étaient les thérapies les plus fortes, enfin les plus efficaces. Et là, en fait, les TCC ont pris beaucoup de place. En fait, on a dit qu'elles étaient vraiment très très efficaces pour les phobies, les agoraphobies, les dépressions, etc. Et donc, ça a été un vent de marée parce que les psychanalystes, qui étaient le courant dominant, étaient furieux.
Et c'est là qu'ils ont dit oui, mais ça ne s'évalue pas. On ne devrait pas être noté.
Oui, tout à fait. Il y avait un biais parce qu'en fait,
ça ne s'évalue pas à nous.
Oui, parce que comme je vous ai dit, en fait, c'est dans les TCC, ça fait partie de la philosophie des TCC d'évaluer en fait les progrès. Donc forcément, quand on les a évalués, forcément on a trouvé qu'il y avait des progrès puisque ça fait partie de la philosophie. Donc il y avait plusieurs biais comme ça. Mais en fait ça a quand même montré que les TCC avaient leur place en tout cas.
Mais alors la guerre, elle se manifeste comment concrètement ?
La guerre, elle se manifeste par exemple à l'université. Donc les professeurs d'un courant ne parlent pas beaucoup aux professeurs des autres courants. Et par exemple, moi j'ai vu un élève ne pas pouvoir passer en M1 parce qu'il avait choisi les tests projectifs en licence et qu'un professeur disait mais en fait comment peut-il croire encore aux tests projectifs? Je ne vais sûrement pas le prendre dans mon meilleur master de psychologie du travail où on étudie la science. Voilà, c'est ce qu'on voit par exemple dans les universités.
Et puis peut-être dans les thérapies elles-mêmes.
Dans les thérapies, moi j'ai eu par exemple un cas où un psychiatre nous disait « mais moi je ne travaille pas avec une psychologue TCC », or il donnait des médicaments à ma patiente, donc en fait j'avais besoin d'adapter la thérapie à la prise des médicaments. Et en plus, en l'occurrence, je connaissais les effets secondaires, c'est-à-dire que la patiente me donnait les effets secondaires à moi et pas au psychiatre. Donc, la pauvre, c'était difficile, c'était pas très intelligent comme thérapie en fait.
Voilà.
Mais il a dit « je ne veux pas travailler avec une psychologue TCC ».
C'est ça. Et puis on peut imaginer aussi parfois, dans les modalités concrètes de cette guerre, qu'il y a quelqu'un qui souffre, qui est sur le divan, et que le psychanalyste se refuse, alors que ça fait 8 ans qu'il tourne en rond, à l'envoyer voir un comportementaliste qui pourrait l'aider en 2 mois. Et on peut aussi penser inversement qu'il y a des comportementalistes qui vont mépriser le psychanalyste en pensant que le psychanalyste est un bavard, c'est un intellectuel. Et finalement, le résultat de tout ça, c'est la souffrance.
Oui, exactement. Il y a un livre de Audrey Gonnet qui s'appelle « Maman, je... maman range ma chambre, quelque chose comme ça, ou ouais. Non, maman, ma chambre est mal rangée. Et elle explique qu'en fait, elle a eu des TOC à partir de 13 ans. Et en fait, elle a été suivie par des psys, mais qui n'étaient pas spécialisés pour ça.
Ah oui.
Donc, en fait, ça a duré des années et des années. Elle a mis des années à trouver quel était le bon psy. Je pense qu'il y a des psys qui l'ont gardé sans lui dire, écoute, il y a d'autres psys qui sont plus forts pour ça, qui sont spécialisés dans cette maladie. Voilà, donc c'est le livre raconte toute cette errance. Et à la fin, elle arrive quand même à une thérapie qui est très intrusive. En fait, on met un espèce de pacemaker dans son cerveau avec des courants électriques. Et c'est dommage parce qu'en fait, les TOC à l'enfance, pendant l'adolescence, ça se soigne. Voilà. Mais si on laisse les choses empirer,
avec la bonne thérapie.
La maladie psychique, si on la laisse s'installer, elle prend toujours beaucoup de place. Et elle a eu des TOC très résistants et c'est vraiment une histoire dommage, quoi. Ouais, c'est triste. Ouais. Voilà ce que c'est la guerre des chapelles, en fait.
Et vous avez parlé tout à l'heure d'écoute. Est-ce que cette qualité, finalement, c'est la même, quel que soit le thérapeute et quelle que soit la chapelle à laquelle il appartient? Et surtout, de quelle nature est cette écoute?
C'est pas tout à fait la même. Les psychanalystes, ils utilisent beaucoup le silence,
ouais.
Parce qu'ils considèrent que, en fait, ils responsabilisent le patient, alors que les TCC utilisent beaucoup d'écoute active. C'est-à-dire que moi, je peux, par exemple, résumer ce que me dit mon patient, mmh. ou résumer ce qu'il m'a dit les fois d'avant. Donc ça, c'est du coup deux différentes écoutes, en fait.
Ouais. L'écoute active, vous pouvez la définir?
L'écoute active, c'est l'idée de reformuler, de résumer ce qu'a dit la personne. Mmh. Et en fait, on dit actif parce que le psychanalyste, ou le psy, pardon, pas psychanalyste justement, mmh. le psy est actif et en fait, il fait évoluer aussi la position de l'autre. C'est-à-dire que si je résume ce que vous m'avez dit la fois d'après, en fait, ça va vous faire un choc, en fait. Soit
c'est
parce que vous êtes dans le déni, soit parce que ça va vous faire passer à l'étape d'après. Donc en fait, ça rend les deux très actifs. Voilà pourquoi on dit écoute active. Ouais.
Et c'est là qu'on voit quand même vraiment la différence pour le coup. Mais je souligne cette différence non pas pour réalimenter la guerre, mais au contraire, pour montrer que les deux formes d'écoute pourraient se rejoindre. Enfin, en tout cas, échanger et être fructueuses. Parce que finalement, le psychothérapeute comportementaliste qui fait de l'écoute active et qui résume en faisant une synthèse, quelque part, il prend la main un petit peu et il guide, en fait. Il guide et
non, pas tout à fait, parce qu'en fait, la personne en face est quand même libre. Si elle me dit, si mon patient me dit, mais non, Émilie, j'ai jamais dit ça, ouais. En fait. Ben, en fait, je suis ravie, parce qu'en fait, il va se positionner.
D'accord. Mais le psychanalyste, on va dire freudien, jamais il ferait ça. Lui, il va laisser le silence permettre au patient, à l'analysant, d'entendre ce qu'il a dit. Ce qui, quand même, conduit à le responsabiliser davantage et à flatter peut-être davantage son autonomie, d'une certaine manière.
Non, moi, c'est pas une histoire d'autonomie, c'est qu'il va solliciter l'association libre, en fait. Il va laisser l'association libre travailler et
c'est
arriver
vrai.
Ailleurs. Mais...
Oui, c'est pour ça que les artistes, les écrivains, les cinéastes, ils ont tout intérêt à aller sur le divan d'un freudien plutôt que chez un adepte des TCC. Parce que l'association libre développe la créativité.
Oui, on trouve plein d'idées sur le divan.
Alors, est-ce que vous avez vu la série En thérapie sur Arte?
Oui, je l'ai vu.
Alors, écoutez ça.
Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire.
Mes patients, s'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments des séances, je pense qu'ils partiraient en courant.
Alors, ce personnage, joué par Philippe Pierrot, donc c'est une série qui a eu un grand succès en France. La France s'est passionnée pour cette thérapie. Il est de quel courant?
Alors, c'est un mix. Pour le coup, c'est super créatif. En fait, il parle autant que quelqu'un qui serait plutôt TCC. En revanche, les dogmes, en fait, on entend plutôt parler de transfert, de refoulement. Donc, en fait, il est plutôt freudien. Donc c'est un mix.
Bah,
en plus, c'est en accéléré parce que quand même, pour la série, les patients quand même évoluent très, très vite.
Ouais.
Mais c'est très didactique. Enfin, j'ai trouvé ça super. À part deux, trois choses.
Par exemple?
Le fait que la première patiente soit le cliché de la patiente qui tombe amoureuse de son psy.
Ouais.
Ça, je...
vos patients tombent pas amoureux de vous?
Non, franchement, c'est un cliché. Ça
mais le transfert, ça, c'est quoi alors?
Le transfert, c'est la projection. Parce que comme le psy parle très peu de lui. En fait, la projection est très forte. En fait, le patient peut projeter énormément de choses. Donc, en fait, les psychanalystes, ils parlent de ça parce qu'ils jouent sur le fait que le patient va imaginer que c'est son père,
ouais.
ou son père, sa
Par
mère,
exemple,
etc.
J'explique un peu pour les auditeurs. Le patient va rejouer dans la relation à son analyste quelque chose qu'il a joué dans son enfance avec son père. Et ça va être, dans cette mise en scène, en quelque sorte, de transfert, une manière de comprendre et peut-être, en le rejouant, d'en sortir. Mais il n'y a pas comme ça de transfert avec un psychothérapeute de TCC ?
Mais si, mais c'est de la projection, en fait. Mais il y a de la projection partout. Quand vous arrivez à un dîner que vous connaissez personne, il y a de la projection. Les gens projettent sur vous ce qu'ils ont envie de projeter à ce moment-là.
Mais donc, du coup, cette logique de transfert, elle est quand même une manière très, très efficace de voir, de comprendre, en fait.
Elle est très efficace en analyse, mais dans les TCC, on pense aussi que parfois, en expliquant, en donnant de la connaissance sur la science, en fait, c'est aussi un moyen de progresser.
Ah oui, c'est ce que vous appelez psycho-éducation dans le podcast. Oui,
exactement.
Ça, c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que la psychoéducation ? Parce que moi, j'ai cru comprendre que, dans certains cas, vous sembliez dire qu'il s'agit un peu de comprendre ce qu'on a pour que ça aille mieux, c'est ça ?
Oui, imaginez par exemple, vous êtes un grand-père et quand vous gardez vos enfants, vous avez des scénarios de violence contre vos petits-enfants.
Oui, oui, les pulsions de comment ça s'appelle ?
Voilà, donc ça s'appelle des phobies d'impulsion.
Phobies d'impulsion, oui.
Voilà, donc vous êtes terrorisé par vos propres pensées. En fait, vous avez l'impression de devenir dingue. Et donc, quand vous allez voir un psy et qu'on vient vous dire, en fait, ça s'appelle des phobies d'impulsion. Il y a tant de milliers de personnes qui sont concernées par ça. C'est un dérèglement du cortex préfrontal. Ouais. En fait, la personne est quand même rassurée. Et la première chose qu'on fait, c'est lui dire, vous n'êtes pas vos pensées. Donc, en fait, tant que vous ne faites rien et que vous avez peur de ça... En fait, c'est juste de l'anxiété qui crée ça.
Oui, c'est très intéressant. On a reçu à ce micro Albert Moukeber, docteur en psychologie et chercheur en neurosciences, qui parlait lui aussi de psychoéducation et qui disait aussi qu'il y a plein de choses qui seraient comme ça à partir du moment où le patient, juste, il est au courant que ça existe et il comprend ce que c'est. Et ça, effectivement, c'est une méthode très éloignée de la psychanalyse freudienne.
Mmh. Exactement, c'est très éloigné.
C'est merveilleux, l'autre. Il n'est pas question de se priver du miracle, comme dit Lévinas, de l'autre. Mais pour être avec l'autre, faut avoir compris des choses en soi. Si tu n'as rien compris en toi, si, comme dit Simone Veil, tu ne t'es pas élucidé un minimum, qu'est-ce que tu vas comprendre de l'autre ? Tu ne comprendras de l'autre que ce que tu as vaguement compris de toi. J'ai aucune raison de m'énerver. Essayons d'être très clairs. Je ne peux jouir de l'autre qu'en ayant de l'empathie. Pour avoir de l'empathie, faut que je le comprenne. Pour le comprendre, au sens premier, le prendre avec, faut que je comprenne des choses en moi pour que ce qu'il est résonne en moi. Et pour que ça résonne en moi comme un instrument musical, il faut quand même que je m'y sois colté à ce que je suis, qui est minable, médiocre, chaotique, inconséquent. Mais tant que tu n'as pas un début d'élucidation de ce que tu es, qu'est-ce que tu vas recevoir de l'autre ?
Alors, Émilie Debeuil, je vous vois rire. Ouais. Ça vous inspire quoi ?
Non, il est drôle. Enfin, il y a une façon de parler qui est quand même exceptionnelle.
Mais à part ça ?
À part ça, bah oui, c'est vrai qu'il faut vraiment se connaître soi-même. Et je pense que les thérapies sont indispensables. Enfin, faire une thérapie quand on est thérapeute, c'est indispensable. Et il y a aussi d'ailleurs quelque chose qui est très bien dans. Vous m'avez parlé de en thérapie tout à l'heure. Ouais. C'est qu'on voit bien qu'un psy, même très expérimenté, en fait, a besoin d'être supervisé.
C'est vrai.
Voilà, donc c'est aussi un apprentissage de soi en tant que thérapeute.
Mais alors, si on écoute ce que disait Fabrice Lucchini, on a l'impression quand même qu'il parle plutôt de la psychanalyse que des thérapies TCC. Quand il dit qu'il faut être allé au fond de sa nuit, comme ça, et aller avoir fouillé, s'être élucidé pour avoir compris quelque chose de complexe de soi, et c'est à partir de ça qu'on peut écouter l'autre. J'ai quand même l'impression que la posture d'un psychothérapeute en TCC, parfois, elle est à l'opposé de ça. C'est-à-dire, moi, comme si le psychothérapeute disait, moi, je n'existe pas, je vous propose une sorte de méthode, et je suis à côté de ma souffrance, à côté... Est-ce que là, il n'y aurait pas une différence, quand même ?
C'est vrai que la psychanalyse a une exigence, c'est d'aller chercher la singularité de la personne qui est en face, et ça, c'est très intéressant.
Oui.
Et une connaissance profonde de soi. Là où un psychothérapeute TCC peut, en fait, viser uniquement la fin de la douleur. Mais on peut faire les deux, en fait.
Ouais. Mais la méthode qui marche, elle marche dans la psychanalyse davantage parce qu'elle est le lieu de la révélation d'une singularité. Et la méthode qui marche du point de vue des TCC, c'est plutôt une méthode qui marche parce qu'elle marche avec les autres. C'est quand même très différent, ça.
Parce qu'elle marche avec les autres.
Oui, je veux dire, c'est une méthode qui est la même pour tout le monde, pour le dire clairement. Si vous allez voir un comportementaliste parce que vous avez un problème, je sais pas, d'angoisse, de jalousie, par exemple, de paranoïa, il va faire avec vous ce qu'il fait avec les autres. Alors que j'ai l'impression que le psychanalyste freudien lacanien, du moins tel que moi je l'ai peut-être rencontré ou fantasmé, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de la singularité et qui va pas appliquer une méthode objective ou commune. C'est quand même très différent.
Oui, mais bon, en fait, on fait les deux. C'est deux, enfin, en tout cas, moi, j'applique une méthode, mais je vois quand même la singularité des gens.
Ouais.
Et je trouve, c'est pour ça que je mène cette guerre contre les chapelles, en fait.
Ouais, c'est beau.
Les deux sont, intéressants.
Ouais, c'est
et surtout, en fait, on ne sait pas, en fait, comment le patient va bouger.
Ouais. D'où l'importance de l'écouter.
De l'écouter et de savoir où il veut aller et dans quel sens il veut aller.
C'est ça qui m'avait passionné quand j'ai découvert Freud. C'est cette dialectique, même dans son travail, dans ses livres, on voit qu'il cherche des invariants, des généralités, presque des méthodes, des universaux presque. Et en même temps, il est en même temps fasciné par la singularité de la personne qu'il a en face de lui. C'est ça qui est très beau dans cette posture de pionnier dont vous et les autres être des héritiers. Nous allons maintenant écouter Petit Jeu.
Cadavre exquis, un revolver dans les journaux. L'homme est cruel, les mots assassinent l'âme criminelle. Je te tiens, tu me tiens,
on laisse.
C'est idiot.
C'était le duo M et Ours, Petit Jeu.
Sous le soleil de Platon.
Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Et ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous.
Charles Pépin. Sur France Inter.
Nous sommes toujours sous le soleil de Platon et c'est bien agréable avec Émilie Debeuil et nous nous interrogeons sur ce que c'est qu'une bonne thérapie. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'écoute, de confiance. Qu'est-ce qu'un bon thérapeute en fait ?
Un bon thérapeute, c'est quelqu'un déjà qui a quelques hypothèses, enfin quelques... Il travaille de manière sérieuse quand même. parce qu'il y a quand même des charlatans, donc il a quand même une certaine solidité derrière lui. Et ensuite, il est assez créatif avec ce qu'il connaît. En fait, il apporte ses connaissances, mais il est assez créatif et il rencontre quelqu'un. Et aussi, c'est quelqu'un qui est bon dans la relation. Mmh. Voilà, parce que c'est quand même un des facteurs les plus déterminants pour arriver à une bonne thérapie, c'est qu'il y ait une bonne relation, une bonne alliance thérapeutique, on dit. Ouais, une bonne alliance thérapeutique, ça veut dire que le patient a confiance dans la compétence, mais aussi il se sent bien, en fait. Il est accueilli de manière assez chaleureuse et il se sent bien avec son psy.
Et ça s'apprend ?
À être chaleureux ? En tout cas, je pense qu'on peut y porter une certaine attention. Et en tout cas, ça met fin aussi à certains psychanalystes qui étaient très froids.
Bien sûr.
Voilà, et qui étaient assez durs, quand même.
Il y a des psychanalystes qui refusent même la notion d'empathie, qui expliquent que dès qu'on se met à la place de l'autre, en fait, on lui prend sa place. Et que si on veut vraiment qu'il prenne son autonomie, qu'il soit responsable de sa vie, il faut lui faire comprendre qu'en fait, on ne peut pas se mettre à sa place, que chacun est à sa place. C'est pas votre approche.
Non, on peut pas se mettre à sa place tout à fait, mais en tout cas, les études prouvent que accueillir son patient et que ce soit chaleureux, c'est vraiment un facteur déterminant. Alors, en fait, c'est faut être courageux pour aller faire une thérapie, en fait, pour aller prendre du temps sur sa vie alors qu'on a des enfants, un job. Il faut être vraiment hyper courageux et surtout qu'on sait pas où on va toujours. Donc, en fait, c'est dur cette froideur.
Ouais, c'est vrai. Quand est-ce qu'on sait qu'une thérapie est terminée?
Une thérapie est terminée quand vous allez un peu mieux, quand vous êtes capable de dire à votre psy, ben en fait j'ai un peu progressé, j'ai compris beaucoup de choses, donc maintenant je vais aller avancer tout seul, et peut-être que je reviendrai. Parfois ils reviennent la semaine d'après, parfois ils reviennent un an après. Aussi quand le psy voit une certaine limite, et ça veut dire aussi que c'est un bon psy si il tombe sur un sujet sur lequel il est moins bon.
Ah oui, dans ce cas-là c'est le psy qui dit j'arrête là.
Oui, si on tombe sur un sujet sur lequel, enfin, je trouve que les psys devraient avoir une certaine humilité, en fait. Et de dire, bon, en fait, ça c'est pas mon sujet, si vous voulez travailler là-dessus, peut-être que vous allez aller voir quelqu'un d'autre et je vais vous indiquer quelqu'un d'autre. Ouais. Ce serait aussi la fin de la guerre des chapelles.
Exact. La réponse freudienne à la question, c'est terminé quand le patient sait ce qu'il a toujours su.
Ouais.
C'est une phrase que j'avais trouvée chez Jean-Baptiste Pontalis. C'est assez beau, je trouve. Mais dans ce cas-là, c'est à lui de savoir. C'est pas au psy de savoir, quoi.
Ben, en tout cas, c'est l'un des deux. Moi, je trouve que c'est une relation, c'est une collaboration, et c'est l'un des deux qui sait quand est-ce que ça s'arrête. Je trouve qu'il y a des psychanalystes, du coup, qui ont des patients pendant 15 ans. Je me demande si ils font bien leur métier, parce que, en fait, la thérapie, c'est aussi pour gagner en autonomie. Donc, je trouve qu'ils devraient, en fait, travailler là-dessus.
Très bien, mais je vais vous objecter que Fabrice Lequigny, qu'on a entendu tout à l'heure, il a fait 30 ans de divan. Alors vous allez me dire, peut-être, c'est pas 30 ans de thérapie, c'est 30 ans de psychanalyse, c'est-à-dire une manière de... Mais sans ces 30 ans, il n'aurait pas ce sens des mots, il n'aurait pas ce sens de l'improvisation, il ne saurait pas entendre finalement la résonance folle des mots. Peut-être qu'on peut aussi faire une psychanalyse sans que ce soit une thérapie, en fait.
Oui, c'est vrai, en fait. C'est vrai que ce que je critique, c'est plutôt les gens qui disent « j'ai fait 15 ans d'analyse, 15 ans de thérapie ».
Oui, oui.
Voilà, ça, je me demande pourquoi le psychanalyste ne travaille pas sur la prise d'autonomie. Mais si on le voit comme une façon de vivre, un temps suspendu à soi, une façon de réfléchir, d'avoir des idées, de se recentrer sur ce qu'il y a d'important, enfin une pratique, quoi, je comprends. Mais c'est vrai que c'est de l'analyse et à ce moment-là, je ne sais pas si c'est de la thérapie.
Vous avez parlé joliment de temps suspendu. Je voudrais à ce sujet vous lire un extrait d'Anne Dufour-Montel, assez joli. Le silence pourrait désigner tout cet espace d'inspiration inexploré qui demeure un work in progress, qui ne cesse de se faire et se défaire. Il est difficile de parler du temps de la psychanalyse sans parler de l'époque prise dans un processus de transformation rapide. Dans ce contexte, le temps devient une denrée rare, hyper investie. La séance de psychanalyse symbolise plus que jamais un espace-temps suspendu. Ce sont vos mots, je les retrouve par hasard. Rien que parvenir à ménager cet arrêt dans le flot ininterrompu qui nous emporte serait déjà thérapeutique. Une, deux, trois fois par semaine, le patient se rend dans un espace-temps qui met en suspens le temps horizontal de nos vies pour accéder à un temps que l'on voudrait vertical, sinon spirituel, un mot que vous avez aussi employé, de descente en soi-même. Pour le dire autrement, le silence de notre société est transgressif.
Ouais, c'est beau.
Oui, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, c'est vrai que je suis assez d'accord avec ces mots. Le silence est transgressif et c'est vrai que, en analyse comme en thérapie, on a un temps pour soi qui est très particulier, avec une espèce d'intimité thérapeutique qui est très particulière.
Mais vous n'avez pas vous-même peut-être aussi du mal à le supporter parfois, ce silence en séance ?
Non, je suis assez à l'aise avec le silence. Mais c'est vrai qu'il y a différents types de silences. Il y a des silences qui sont habités, il y a des silences qui sont chaleureux, il y a des silences qui sont un certain malaise. Mais bon, c'est mon métier de dévoiler ce qui se passe ensuite. Ou alors, de faire exprès de mettre un silence.
J'aimerais savoir, à partir de votre position, donc vous êtes psychologue, psychothérapeute, vous intervenez aussi en entreprise en tant que psychologue du travail, en libéral en tant que psychologue. Qu'est-ce que vous voyez de l'époque à partir de cette position? Je vous pose cette question parce que, à ce micro, Cynthia Fleury avait parlé du ressentiment comme le mal de notre temps. Est-ce que vous confirmez?
Oui. Bon, alors moi, je comprends tout à fait ce qu'elle dit, mais je vois surtout un problème de reconnaissance. Ouais. En fait, la reconnaissance, je ne sais plus qui travaillait là-dessus en philo, Hegel.
C'est Hegel, oui.
La reconnaissance, c'est un besoin fondamental. Et donc, dans un monde ouvert où on voit ce que les autres ont, c'est quand même un sujet. Voilà, je veux la reconnaissance de qui, de tout le monde. Ouais. Je veux des likes partout. Je veux que tout le monde voit que j'ai un super métier. Enfin, il y a un sujet là-dessus. Et ça crée du ressentiment. Ensuite, ce que je vois, c'est l'aliénation au travail. Je suis mon travail. Espèce de confusion totale. Voilà, alors que je suis aussi quelqu'un qui est amoureux. Je suis aussi quelqu'un qui est un père, etc. Mais en fait, je vis plus le fait que je suis un travail. Je me définis comme le travail.
Ça, vous le voyez vraiment?
Ouais, je le vois.
Vous pensez
vraiment
que c'est pire aujourd'hui qu'hier?
Oui, bah c'est la maladie du burn-out aussi qui est apparue à cause de ça, en fait, à cause de cette dérive.
Et donc ça veut dire que il y a une souffrance psychique dans cette manière de s'identifier à son travail. On peut peut-être penser que c'est parce que avant, à côté du travail, il y avait l'église, il y avait la famille, il y avait les syndicats, il y avait les associations, et qu'en fait tout est en déclin à part le travail, et que finalement on s'accroche à ça, quoi. Et vous le voyez dans votre cabinet au fond. Vous voyez les gens qui sont perdus et qui s'accrochent à la dernière identité, au fond, qui leur reste, quoi.
Oui, c'est ça. Exactement. Et qu'est-ce que je vois d'autre comme dérive importante? La place des émotions. Vous parliez aussi des émotions. Je trouve qu'il n'y a pas d'émotions au travail.
Ah oui?
Ouais, donc c'est assez troublant et ça crée un monde très dur. Enfin, elles ne sont pas très bien acceptées.
C'est horrible. Parce que, enfin, comment c'est possible d'en être encore là? Non, mais je vous dis mon étonnement, parce que il m'est arrivé à moi quelque chose de cet ordre. Un jour, on me demande une conférence, et puis la personne qui me la demande, je vous dis pas qui c'était parce que ça se fait pas, c'est quelqu'un qui met du temps à dire ce qu'elle veut, parce qu'elle estime que c'est extrêmement subversif. Et puis au bout de 3-4 phrases comme ça, elle crache sa valda, et ce qu'elle trouvait subversif, c'était de me proposer une conférence sur le droit à l'émotion en entreprise. Et j'étais tombé des nues, tellement ça me paraissait fou, quoi. Et là, vous le confirmez, en fait.
Oui, en fait, on considère que les émotions, c'est à la maison, et qu'en fait, on doit avoir une certaine neutralité dans mes relations au travail. Or, ce n'est pas possible, en fait. Si je suis en face de quelqu'un, il y a une communication, il y a des émotions.
Ah oui, d'accord.
Utiliser un vocabulaire psy, ça permet d'être plus poli aussi, plus tolérant avec les gens. Par exemple, avant on disait que quelqu'un était chiant, maintenant on dit qu'il est névrosé. Avant on disait que quelqu'un était un connard, maintenant on dit que c'est un pervers narcissique. Ah mais si vous saviez le nombre de pervers narcissiques dont j'ai entendu parler ces deux dernières années. Ah mais c'est dingue. Ouais. Ah non mais mon mec il me trompait, il me le disait pas, le profil type du pervers narcissique, quoi. Le profil pic du type du connard qui trompe, quoi. T'aurais voulu quoi, que le mec te trompe et te le dise, genre non seulement il est infidèle, en plus il est con. Enfin, tout est psy. Pareil, si vous saviez le nombre d'enfants précoces que j'ai rencontrés depuis 2 ans. Après le pervers narcissique, on a eu droit à l'enfant précoce. Non mais incroyable. À Paris est peuplé soit de pervers narcissiques, soit d'enfants précoces. Ou alors il y a un truc, les pervers narcissiques donnent des enfants précoces, je sais pas. En plus, enfants précoces, tu parles une fois sur deux, c'est pour justifier qu'il est con.
Alors cette inflation comme ça du vocabulaire psy, vous en pensez quoi?
C'est vrai, mais alors je pense que c'est un retour de... Parce qu'en fait, en tout cas, moi je suis née dans une famille où la psy, ça n'existait pas, c'était du pipeau, et on voulait pas en entendre parler. Ouais. Donc je pense que...
C'est pour ça que vous êtes devenue psy?
Oui, c'est pour ça que je suis devenue psy. Donc je pense que là, effectivement, il y a un retour où on parle énormément de psy. Il y a aussi tous les livres de développement personnel qui sont sortis, donc qui ont nourri en fait beaucoup de connaissances. Mais je trouve ça pas si mal.
Ouais, pourquoi?
Bah parce que moi, j'étais dans une famille qui, justement, n'avait aucune connaissance. Et en fait, ça fait beaucoup de mal. Voilà, ça fait beaucoup de mal. Moi, j'ai eu une mère qui était dépressive parce qu'elle avait perdu son mari.
Ouais.
Et en fait, on n'a pas pu l'aider parce qu'on comprenait rien, on savait pas ce que c'était que la dépression. Et puis en plus, il y avait cette idée qu'il fallait pas en parler, en fait. Ah c'est oui. un secret, il faut mettre les choses sous le tapis. Et voilà, ce genre d'idée, ça n'aide pas à combattre les maladies mentales. Donc finalement, je trouve ça un peu mieux, cet excès, où en fait, on parle peut-être un peu beaucoup, mais au moins, on en parle.
Ouais, ça, et si vous êtes devenu psy, c'était dans un souci peut-être de réparation par rapport à ce passé ? Et vous pensez que c'est aussi le cas de tous les psys ?
J'ai rencontré beaucoup de psys dont c'était le cas. Oui, moi, évidemment, c'est le cas. Je pense que ma mère a été très mal entourée. Et que si on aurait pu mieux faire. Mmh. Donc oui, c'est vrai que c'est une sorte de réparation.
Vous auriez eu besoin à l'époque de ce que vous avez appelé psychoéducation déjà. Même au-delà du fait de parler, juste connaître.
Oui, connaître. Ben alors, par exemple, moi, j'avais cette idée quand j'étais adolescente, hein, mais cette idée qu'en fait, en lui faisant mal et en la faisant réagir, j'allais l'aider à bouger et à comprendre. Bon, voilà, ça c'est dramatique comme idée. Hein, on peut pas faire pire. Donc oui, c'est vrai, peut-être que lire des livres ou avoir de la psychoéducation. Par exemple, il y a une vidéo qui s'appelle Mon chien noir, qui est sur les dépressions de l'OMS, oui. qui explique hyper bien ce que c'est que les dépressions. Oui, j'aurais bien voulu voir ça, j'aurais peut-être été un peu moins stupide.
Merci beaucoup, Émilie Deboy. On espère que vous allez apporter ces conseils et prodiguer ces soins à tous vos patients. Merci de nous avoir rejoints sous le soleil de Platon. Et je vais essayer, pour nos auditeurs, comme c'est la tradition de cette émission, de résumer votre philosophie de la vie. Une philosophie, j'aurais envie de dire, du décloisonnement, une philosophie de l'écoute, une philosophie de la confiance. Cette idée aussi que même s'il y a des méthodes, puisque vous êtes plutôt dans le camp des TCC, eh bien ce qui compte, c'est d'utiliser ces méthodes, pas simplement pour nier les singularités, mais pour les écouter avec la chaleur que vous avez évoquée, avec cette chaleur, cette écoute, et ce sens aussi finalement du lien. Vous avez parlé de ce lien très joliment. Vous vous êtes inscrite dans ce mouvement pour lequel vous militez, le mouvement de l'intégration, sortir de la guerre des chapelles, sortir des sectes finalement, ça me touche beaucoup, puisque ce fut aussi mon chemin par rapport à la philosophie, à croire que dans les sciences de l'esprit comme dans celles de l'âme, on est malade de trop de compartiments et de trop de sectes. Merci beaucoup, Émilie Deboy, de nous avoir accompagnés ce matin. Cette émission a été réalisée par Alicia Vullo, avec à la technique Ludovic Asselot, à la programmation musicale Valentine Chaudebois, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les matins, sous le soleil exactement, dans la caverne de France Inter, sous le soleil de Platon.